Solo esta vez. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pocori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire, Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
فيروس كورونا الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب.
This virus still has the potential to erupt into a global pandemic.
De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus.
Édition spéciale.
Tous confinés, tous ensemble, bienvenue à Popourri Show, une émission produite très loin de Toronto en mode virtuel, animée par Eric Adair en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter, France 24, Maître Peter Bureau, avocat et analyste politique, le bureau de Francine Watkins, conseillère consulaire des Français de l'étranger, montage et mixage DJ Devera dans un studio de fortune. Merci d'être au rendez-vous en ce 7 juin 2020. Merci infiniment pour vos nombreux messages, à vos réactions sur les grands événements marquants de la semaine. Merci à notre correspondant, Maître Peter Bureau, qui présentera sa chronique hebdomadaire, bien sûr, reflétant les sujets du jour. Les États-Unis à feu et à sang, rien ne va plus. Après la crise sanitaire, c'est la crise sociale. Les manifestations ne faiblissent pas. Les Noirs sont-ils plus à risque d'être tués par la police aux États-Unis ou au Canada? Les policiers canadiens et américains sont-ils assez bien formés? Quelles sont les conditions des francophones noirs en Ontario, au Québec ou au Canada? Pourquoi les Noirs francophones choisissent-ils de plus en plus le monde anglophone? Quels sont les obstacles systémiques qui les empêchent à réussir, progresser dans la communauté francophone de l'Ontario, du Québec? Qui est Derek Chauvin, l'officier de police de 44 ans incriminé dans la mort de George Floyd? La grande question que tout le monde se pose, est-ce l'heure de vérité pour Donald Trump? Nous avons reçu plusieurs témoignages, des poèmes, des chansons, des réflexions, des confidences de la part de nombreux auditeurs de la région de Toronto, de Montréal, d'Ottawa et même de l'étranger. Merci à M. Amilcle Fontaine, Jean Fogéba, qui est artiste d'origine camerounaise, qui habite Toronto depuis très longtemps et qui a lancé une chanson en ligne pour marquer justement les événements qui se déroule en ce moment à Toronto et aux États-Unis. Coronavirus, que doit-on dire? Distanciation sociale ou distanciation physique? Pourquoi la distanciation physique varie-t-elle d'un pays à l'autre? Linda Giger de TV5 Monde sera des nôtres pour tout nous expliquer. Qui a dit quoi? La véritable menace qui nous guette à la sortie de cette pandémie, c'est justement la distanciation sociale. C'est l'opinion de notre invité, correspondant, sociologue, professeur Frédéric Boiron. Hommage à Albert Memmi, un grand poète, écrivain, essayiste franco-tunisien. Il est mort le 22 mai dernier à l'âge de 99 ans. Le professeur Eddy Bouraoui nous a envoyé un texte en hommage à ce grand écrivain. Nous avons retrouvé dans nos archives une entrevue d'Albert Memmi qu'il a accordée à une télévision berbère. On vous en livre un extrait. Hommage à une autre personnalité, notre ami Harold Brathwaite. Il était la première personne noire à occuper le poste de directeur de l'éducation au Canada. Il est décédé le 31 mai dernier. Nos sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Une jeune écrivaine mauricienne, Caroline Laurent, a été récompensée pour son dernier livre, dont le titre a fait la manchette à l'île Maurice, mais aussi dans l'océan Indien, Rivage de la colère. Rivage de la colère aux éditions Escale de Caroline Laurent, lauréate du prix Maison de la Presse 2020, un roman bouleversant. Rencontre exclusive avec Caroline Laurent, écrivaine mauricienne. C'était le lancement du mois des fiertés le 1er juin et tout le gratin de la communauté LGBTQIA de la région de Toronto mais aussi de l'Ontario était au rendez-vous. Mais attention, attention, c'était en mode virtuel. Célébration à l'antenne chaque dimanche. Et enfin, je vous invite à visiter notre site popourishow.com pour avoir accès à tous les liens sur les dernières mises à jour sur le coronavirus, mais aussi les infos du site de la conseillère consulaire Francine Watkins. Et une fois de plus, un grand merci à tous ceux et celles qui nous font confiance. Suite aux événements, manifestations sur le racisme aux États-Unis et à Toronto, Montréal, et même à Paris, hein, on m'a dit cette semaine, ça a bougé pas mal, hein. C'est triste, insultant de voir que tous nos médias politiciens passent leur temps à encenser la communauté noire ou encore leur noir ou nègre de service. En un jour, tout le monde devient spécialiste sur les questions raciales. Mais où ça? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ou lire sur les réseaux sociaux et dans les émissions de radio, de télévision? 50 ans après, les noirs francophones se sentent toujours exclus. Ils ont le sentiment d'être la cinquième roue du carrosse. Selon plusieurs francophones interrogés, plusieurs organismes, institutions francophones du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, ne sont pas prêts d'embaucher des francophones noirs dans des postes de direction. En un mot, il y a une très grande méfiance entre francophones de souche, pure laine, et des immigrants francophones. Et là, je parle même des immigrants qui sont d'ici depuis très longtemps, sont deuxième, troisième génération. Ce genou qui fait mal, ce genou que nous avons pu voir à travers les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde, ce genou sur un coup afro-américain, c'est la thématique de la chronique de notre correspondant, avocat, fondateur de Section One, PDG de Newcon Optic, président émérite, Institut Jane Goodall, rédacteur en chef d'un livre sur la démocratie à paraître aux éditions Mosaic Press. Monsieur Peter Biro, la parole est à vous.
Brutalité policière et discrimination au recours à la force, racisme persistant dans la société américaine, désespoir, peur et frustration résultant de la menace pour la santé publique et des retombées économiques de la pandémie. Ces dernières semblent être les raisons évidentes des troubles civils survenus dans les rues américaines. Et on fait écho à la sympathie et à la solidarité avec la famille de George Floyd dans les villes du monde entier ces dernières semaines. Mais ces facteurs n'expliquent pas l'ensemble du tableau. Le racisme dans la société et dans nos institutions n'est pas plus important aujourd'hui qu'à aucun moment au cours des décennies précédentes. L'application des lois n'est pas plus coupable d'iniquité et d'utilisation arbitraire de la force que lors de la période précédente. On peut dire que la révolution des droits de l'homme, telle qu'elle s'est manifestée dans les lois antidiscrimination et dans l'expansion de l'inclusivité en tant que valeur universelle relativement récente, a amélioré bien des choses. Que se passe-t-il alors? S'agit-il vraiment d'un genou mortel sur le cou d'un homme? Au cours des dernières décennies, il est devenu évident que les gouvernements démocratiques libéraux n'ont pas tenu les grandes promesses qu'ils ont faites pour assurer la justice, l'égalité et la prospérité à leurs citoyens. Si d'énormes progrès ont été accomplis sur le front de l'équité et l'inclusivité, ainsi que la reconnaissance d'une panoplie toujours croissante de droits reconnus par la justice, de larges catégories sociales, de citoyens et de communautés, il existe toujours une discrimination systémique importante dans les grandes institutions. Qu'avons-nous appris? Que ce racisme demeure un facteur majeur dans l'application des lois, dans les attitudes et les politiques en matière d'immigration et de réfugiés, dans l'emploi et bien sûr dans la politique. Que cette inégalité économique, tant dans la répartition des revenus que dans la richesse même, augmente de façon exponentielle d'année en année, que les gouvernements sont de plus en plus improbables à corriger ces tendances. Et nous avons appris que les institutions seules ne protègent pas et ne font pas avancer les causes de la démocratie, de la liberté et de la justice. Nous avons appris que les freins et contrepoids institutionnels, en fait constitutionnels même, qui étaient conçus pour empêcher les abus des pouvoirs exécutifs et administratifs, ne fonctionnent que si les représentants du peuple et les fonctionnaires nommés les font fonctionner. C'est ce que nous avons appris d'Orban en Hongrie, d'Erdogan à Turquie, de Bolsonaro au Brésil et de Trump en Amérique. Et c'est ce que nous apprenons partout avec les gouvernements municipaux et les services de police. Les systèmes ne se contrôlent pas eux-mêmes. Et donc les gens sont descendus dans la rue pour exiger des comptes. Que leur voix soit entendue haut et fort. Que le souffle de personne, et surtout pas celui d'une personne de couleur, soit étouffé par un autre genou sur le cou. Peter Biraud, correspondant spécial, le Potpourri Show, CIUT FM.
And sisters that's tearing up the streets, just keep the faith, the shadow pain will come from underneath. Let's show the world that we're not backing down in case of heat. How can we hold the anger in when they treat us like weak? Look in the mirror and then tell me what you look and see. I know I see a human with emotions underneath. You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The man could kill my plans, but this is not a dying breed. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, spark it up, keep calm and breathe. You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The man could kill my plans, but this is not a dying breed. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, spark it up, keep calm and breathe. You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The man could kill my plans, but this is not a dying breed.
One injustice, one place, is an injustice in every place.
So much hate, so much this, so much that, so much pain. I just miss all my niggas, bring them back, and it's whack. I just focus on that, the people don't wanna fix it. They hear the screams and the wishes, you know we're black, they don't listen. You know a rap out of sniffing, my nigga Floyd wasn't tripping. He wasn't caught by the mitten, we knew the danger was hitting. These things are history writ, so rewrite history, listen. Let's all just keep up the vision, I know we'll complete the mission.
You got a voice, so be heard. Just let them know that we heard. That's our stop, just one word. And when there is trouble at hand, don't be afraid to stand. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, bark it up, keep calm and breathe. You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The man could kill my puns, but this is not a dying breed. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, spark it up, keep calm and breathe. You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The man could kill my puns, but this is not a dying breed.
CIUT 89.5, Toronto. Attention, prêt, déguster. RCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos TT Douette. Des recettes savoureuses, équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
News. Business. Life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. De Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town, Africa 24 vous guide au cœur de l'actualité internationale et de l'actualité africaine. Avec Africa 24, le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale à chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique, les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. News. Business. Life.
Alors, 1 mètre, 1 mètre 25. Il y a un truc qui me chicote, moi, depuis le début de la crise, c'est la distanciation physique. Vous avez remarqué, en France et en République démocratique du Congo, par exemple, c'est 1 mètre. C'est d'ailleurs ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Mais en Belgique et en Allemagne, 1 mètre 50. En Suisse et au Canada, ils ont carrément doublé la mise de départ, 2 mètres. Ben, c'est simple, j'ai même pas les bras assez longs. Pourquoi ces écarts entre les différents pays? Est-ce que les Suisses et les Canadiens postillonnent plus que les Belges et les Français? Ça aurait été passionnant. Mais les linguistes pensent que non. Ce qui joue, d'après eux, c'est l'environnement au sein duquel le postillon évolue. Plus il y a de l'espace, plus la distanciation physique est grande. Le Canada, par exemple, est l'un des pays les moins densément peuplés au monde. À les deux bonnes longueurs de bras, il y a de l'espace. Mais cette mesure est évidemment impensable à Paris, où on vit les uns sur les autres et où même le respect du mètre minimal, et c'est presque du fantasme. Alors pour nous assurer une pleine sécurité, on nous recommande de recourir en complément au fameux masque en papier à usage unique et jetable, efficace pendant 4 heures seulement, mais vendu partout désormais, et qui est fabriqué à partir de matières dérivées du pétrole. J'ai donc choisi le mien en tissu, lavable, réutilisable, et bien sûr, je garde mes distances. Allez, bye bye!
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Potpourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Potpourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM. Chaque dimanche de 11h à 13h en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO. Le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto. La chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo. Les éditions prises de parole. EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Tous confinés, tous ensemble, re-bienvenue à Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde sur CUT 89,5 FM. Et petit rappel, petit coup de pouce, si vous avez le temps, si vous avez les moyens, c'est très important cette année, surtout cette année, dès le 15 juin prochain, CUT FM lance sa campagne, les amis, les voix, les sons de votre ville, comme vous le voulez, 34 ans bientôt, à l'antenne, la seule émission en langue française, nous avons besoin d'un don de chaque auditeur, chaque auditrice, pour garder l'antenne. Vous pouvez aller sur notre site www.ciut.fm, ciut.fm, ou encore envoyez-nous un message popourri@cut.fm. Et oui, dans un instant, nous allons avoir l'écrivaine mauricienne Caroline Laurent. Nous aurons aussi dans la deuxième heure le sociologue professeur Frédéric Boiron. Et si nous avons du temps, les textes des auditeurs, des artistes de la région de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, mais aussi de l'étranger. Et Jean Fogéba, un artiste d'origine camerounaise qui est dans la région de Toronto et qui vient de composer une toute dernière chanson sur George Floyd et les émeutes qui se déroulent en ce moment aux États-Unis. L'écrivain sociologue Albert Memmi, grand auteur français d'origine juive tunisienne, est décédé le 22 mai dernier à Paris à l'âge de 99 ans. C'est une grande conscience intellectuelle, un anticolonialiste, qui en même temps sait très bien que dans une Tunisie indépendante, il n'aura plus sa place. Son talent avait été reconnu très tôt par Albert Camus et Jean-Paul Sartre, qui avaient préfacé ses premiers ouvrages, notamment son roman La statue de sel en 1953, où il s'émerveillait et souffrait à la fois d'avoir plusieurs identités, à l'image de son personnage principal, Alexandre Mordecai Benelouche. Écrivain, chercheur reconnu, Albert Memmi n'avait jamais cessé de chercher à bâtir des ponts entre l'Orient et l'Occident, l'Europe et le Maghreb, et il aura contribué par ses écrits à développer la pensée humaniste, notamment par ses essais autour de la judéité, un concept qu'il avait forgé dans les années 1970, du colonialisme, notamment avec son portrait du colonisateur en 1957, et du racisme. Et justement, notre ami d'origine tunisienne, qui vit à Toronto depuis plus de 60 ans, professeur Eddie Bouraoui, poète, écrivain, très connu dans la région de Toronto et dans le monde, professeur émérite à l'Université York, nous a envoyé un petit texte qu'il a écrit pour justement rendre hommage à sa façon, à son compatriote. Hommage à Albert Memmi. Et je vous lis quelques extraits. C'est par Leaders, quotidien en ligne de la Tunisie, que j'ai appris ce 24 mai 2020 que mon cher frère aîné Albert Memmi est décédé. Triste nouvelle qui m'a profondément affecté, mes condoléances les plus chaleureuses à tous les membres de sa famille. Que Dieu fasse que son âme repose en paix et le reçoive dans sa miséricorde. J'ai mis au programme de mes cours et pendant des années tous les livres d'Albert Memmi. J'entretenais avec Albert une fraternité indéfectible. À chaque fois que je venais à Paris ou que je revenais de Tunis, dans la ville Lumière, je m'arrangeais pour le revoir et nous passions de précieux moments inoubliables. Quand son épouse était vivante, il m'invitait souvent à dîner chez lui. Après, il vivait seul et je l'invitais dans un petit restaurant près de chez lui et nous refaisions le monde en discussion passionnante. C'est tout un texte que je vais bien sûr publier sur le site popourichaud.com. Tout de suite, madame, monsieur, nous allons passer à un entretien que j'ai pu retrouver dans nos archives, Alia Mimi, qui était à l'antenne de la télévision berbère il y a quelques années. Hommage à Albert Mimi.
Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui, Albert Mimi?
Vous savez, je ne suis pas vaniteux en ce sens que je ne me targue pas de choses que je ne mérite pas. Pour des raisons simples d'ailleurs, ça fait partie de mon histoire personnelle. Je suis d'origine, mes parents étaient artisans, et même de petits artisans, et il a fallu lutter à peu près pour chaque grade. Hein, c'est-à-dire que, bon, si j'affirme des choses qui ne sont pas vraies, je me mens. Ce n'est plus de l'insolence. Donc, en réalité, j'ai plutôt tendance à me poser la question, est-ce que tu as raison? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu ne te trompes pas? Presque au point du psychanalytique, est-ce que tu as assez payé pour ça? Ce qui, d'ailleurs, pas tellement sain. Finalement, ça coûte cher. Mais enfin, c'est comme ça, c'est au fond. Donc, je ne suis pas vaniteux. Est-ce que, des fois, je suis fier quelque chose? Je ne sais pas si le mot fier est bon. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai lancé, entre autres concepts, par exemple, celui de judéité, par exemple. Ben, il est en tête dans les dictionnaires. Les gens parlent de judéité sans savoir que c'est moi qui l'ai fabriqué. Bon, ils ne savent pas, mais moi, je sais. Donc, ça me fait plaisir. Quand chaque fois que je lis, quelqu'un note la chose, ça me fait plaisir. Quand quelqu'un étudie le mot de théophobie, que j'ai essayé également d'entrer, de proposer à l'Académie française, eh bien, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui utilisent ça, sans savoir qui l'a fabriqué. La définition du racisme, elle est enseignée dans les écoles maintenant. Bon, ben c'est bien. Donc, je ne sais pas si le mot fierté est bon, mais mettons satisfaction.
Beaucoup d'écrivains rêvent, parfois sans le dire, de la postérité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a un sens?
La postérité? Oui. Il faudrait, comme je suis plutôt agnostique, c'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait un paradis, une au-delà, enfin, toutes ces choses-là. C'est vrai que ça pose un problème considérable. Est-ce que ça vaut la peine, en quelque sorte, devrait tellement, parce que finalement, c'est de la vie d'écrivain sérieux, je ne parle pas d'écrivain de gare, hein, ça c'est trop facile, ça n'a pas d'intérêt. Mais faire annuler une œuvre, vraiment, entre guillemets, est-ce que ça vaut la peine de tellement d'efforts, de travail? Je me mets à ma table presque tous les jours, y compris le dimanche. Il n'y a pas de dimanche pour moi, c'est 7 jours sur 7, comme sur les restaurants de luxe. Donc je travaille énormément. Et je pense que, puisque je suis agnostique, bon, ceux qui pensent qu'ils vont avoir une autre vie, c'est parfait, ça continue. Je ne sais pas très bien pourquoi nous faisons ça finalement. Pourquoi nous composons de la musique? Pourquoi nous composons du... Il y a des réponses partielles. La réponse partielle, c'est que c'est la question de testament. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui allons en profiter, c'est comme pour l'argent, on garde un peu plus que ce dont on a besoin et on le donne aux enfants. Donc, il y a quand même des gens qui en profitent. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'après tout, nous sommes venus dans une société qui est inégalitaire, injuste, tout ça, c'est exact. Je ne renie rien de cette critique sociale. Mais c'est vrai qu'ils m'ont donné des choses. J'ai permis d'entrer à l'école. J'aurais pu ne pas y entrer, comme beaucoup de fils d'artisans. Puis à le lycée et l'université. Donc j'ai reçu quand même quelque chose. J'ai reçu une certaine culture. Donc il y a une espèce de prêter rendu. Donc je fais ça. C'est tout. Je ne sais pas. Si on me disait, qu'est-ce que vous pensez, justement, qu'est-ce que c'est que la postérité? Je n'en sais rien, vraiment. Je te reste un peu. Mais j'ai pas tout résolu, vous savez. C'est une recherche qu'on sent difficile, pénible quelquefois. Mais je vous dirais que ce qui est amusant et intéressant, passionnant même, c'est la recherche. Et on trouve en passant telle définition, telle explication d'un phénomène qu'on n'avait pas compris. C'est le travail même, un peu comme un bon cuisinier, si vous voulez.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena loco.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa. Ding e dong.
Non è te.
Ding e dong.
Écoutez la planète chanter.
Et oui, nous avons reçu plusieurs textes concernant le racisme anti-noir. Surtout depuis que les émeutes se déroulent en territoire américain, mais aussi on nous dit qu'à Montréal il y a eu des échauffourées la fin de semaine dernière. Nous avons reçu un texte de Amy Clé-Fontaine de la Fondation Sylvanie Lindor, un organisme communautaire de la région de Toronto qui œuvre auprès des jeunes immigrants noirs francophones. Travail formidable. Parlons trop de racisme aux États-Unis nous donne l'impression que le racisme anti-noir et la discrimination raciale n'existent pas au Canada. Le racisme anti-noir est bien réel à Toronto. Alors, c'est un texte qui est un peu long, mais qui en dit justement les difficultés, mais aussi les expériences que vivent les Noirs dans la région de Toronto face à la police. En dépit des circonstances exceptionnelles et du confinement, le verdict vient de tomber. Cette année, le prix Maison de la Presse revient à Caroline Laurent pour son roman engagé « Rivage de la colère » paru aux Escales, éditions Escales. Un drame historique qui s'est déroulé dans l'océan Indien en 1967 et certains rendez-vous, comme vous le savez, contiennent le combat d'une vie. Nous sommes en mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, au Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. Elle fait la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Et je vous laisse à découvrir la suite. Ce récit bouleversant plonge le lecteur dans un drame méconnu. C'est un roman magnifiquement écrit qui nous emmène, nous transporte et nous laisse le souffle coupé, heureux d'avoir été traversé par tant d'émotions. Caroline Laurent avait publié en 2018 « Et soudain la liberté », un roman écrit à quatre mains avec Evelyne Pissier. Caroline Laurent, bonjour et toutes nos félicitations. Pouvez-vous nous présenter à nos auditeurs votre dernier livre, « Rivage de la colère », qui a mérité le prix Maison de la Presse ?
« Rivage de la colère », c'est une histoire vraie d'exil et de révolte qui se passe dans l'océan Indien. Cette histoire, elle concerne l'archipel des Chagos, qui se trouve au plein cœur de l'océan Indien. Il faut imaginer un chapelet d'îles vraiment situé à peu près au sud des Maldives. Et ces Chagos ont appartenu pendant des années à l'île Maurice. Il se trouve que ma mère est mauricienne et que je suis moi-même franco-mauricienne. Et ce territoire était peuplé de descendants d'esclaves malgaches, des gens qui avaient une vie très simple, qui vivaient de la pêche, qui vivaient du travail du coco, qui étaient noirs, qui étaient analphabètes. C'est un des grands problèmes d'ailleurs de cette histoire. Et ces gens, en 1968, année à laquelle laquelle Maurice a accédé à l'indépendance, puisque Maurice jusque-là était une colonie britannique, eh bien à cette date-là, la population des Chagos a été déportée de force par les Anglais pour faire place nette sur les îles Chagos. Et pourquoi ? Parce que c'était un enjeu hautement géostratégique à l'époque pour les Anglais, qui ont donc vidé l'île de force et qui se sont empressés de louer le territoire de l'île principale, qui s'appelle Diego Garcia, aux Américains, pour qu'ils y montent une base militaire. On est en pleine période de guerre froide. C'est une île qui a portée de missiles de l'Afghanistan, de l'Asie, du Moyen-Orient. Donc pour eux, c'était très stratégique. Et ces pauvres Chagossiens, qui vivaient une vie, encore une fois, extrêmement paisible, se sont retrouvés livrés à eux-mêmes à l'île Maurice, où ils étaient déportés, et ont construit une espèce de bidonville pour essayer, ben, évidemment, de se retrouver entre eux et de s'en sortir. On pourrait s'arrêter là et se dire, voilà, la tragédie d'un peuple, de gens qui ont été écrasés. Mais ce que j'aime dans cette histoire, moi, c'est le côté David contre Goliath. C'est le moment où les Chagossiens ont décidé de relever la tête, de s'emparer de leur destin et de protester. Les Chagossiens se sont réunis entre eux pour vraiment former une espèce de puissance, faible soit-elle, mais pour protester, pour réclamer le droit de retour sur leurs îles. Et c'est un combat qui continue toujours aujourd'hui, puisque en mois de septembre 2018, il y a eu un très grand procès qui les a opposés au Royaume-Uni à la Cour internationale de justice. Et moi, j'étais avec eux à ce moment-là pour les soutenir. Alors, cette histoire me tenait énormément à cœur, puisqu'il se trouve que ma mère et ma famille mauricienne ont eu la chance de vivre quelques semaines sur l'île de Diego Garcia et à Perros Baños, donc dans les îles Chagos, juste avant qu'elles soient totalement fermées par les Anglais, puisqu'aujourd'hui, ce sont des îles inaccessibles. La base militaire est totalement verrouillée. Si vous voulez, c'est un Guantanamo qui se trouve dans l'océan Indien, donc c'est absolument verrouillé. Et moi, j'avais envie de redonner la parole à des gens qui ne l'ont pas au quotidien. C'était une histoire pour moi croisant la grande histoire et l'histoire intime. Et je me suis rapprochée aussi des résistants chagossiens qui sont toujours basés à l'île Maurice pour avoir accès aux procès-verbaux, aux photographies d'archives, à toute une somme et une masse de documents qui m'a permis de nourrir ce que ma propre mère, elle, m'avait raconté avec ses souvenirs de jeune fille. C'est un roman, Rivage de la colère, qui parle effectivement d'exil et de colonialisme et qui pose cette question. Est-ce que la décolonisation est terminée ? À cela, je réponds que non. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est aussi la Cour internationale de justice. Puisque le fait que les Britanniques aient excisé l'archipel des Chagos de l'île Maurice, c'était une manière finalement de garder dans leur escarcelle un territoire qui ne devait plus leur appartenir. Donc je suis vraiment nourrie par toutes ces questions de déracinement, d'exil forcé, et le moment où les femmes aussi s'emparent de ces combats, puisque dans « Et soudain la liberté », coécrit avec Evelyne Pizier, il y avait cette dimension d'émancipation des femmes. Et dans « Rivage de la colère », c'est encore une fois une femme qui va être à l'origine de la révolte et du combat. Donc il y a quelques points communs, il y a une filiation entre ces deux livres, mais je crois surtout que c'est la figure maternelle qui relie les deux.
Yo, ratatatatatatatatai, yeah man, special combination, just been shallow, original tune, yeah man, respect all time, laissons parler les gens, laisse parler les gens.
Oh, vocal ou vos messages.
Bonjour.
Bonjour, mon nom est Alexandre.
Je m'appelle Mercedes. Mon nom c'est Madame Mercier.
Oui, bonjour. Mon nom est Louise Giroux.
Bonjour, suite à votre demande sur Twitter.
Oui, bonjour. Mon nom c'est Marie.
À la demande de Danny, c'est un grand papa.
Message 1. Nouveau.
Ce qui me donne espoir à ces jours-ci, c'est
de parler à ses petits-fils. Occasionnellement, toujours à distance, c'est comme n'importe quel amour. Garder un peu de distance pour être toujours plus près.
Ce qui me donne espoir, c'est la personne qui a bientôt 13 mois.
Concernant mon espérance, là, ben, moi, je vis seule. Ce sont mes petits-enfants. J'en ai 4, de 15 à 6 ans.
C'est ma maman de 97 ans qui me dit au téléphone tout à l'heure, on est chanceux d'être au Québec.
Moi, ce qui me donne foi ces temps-ci, c'est la solidarité au Québec.
Car on a un bon premier ministre entouré de personnes intelligentes.
Puis, on a un capitaine qui a les deux mains sur le volant, une équipe qui l'entoure formidable.
Mon commentaire, est-ce que lorsque nous avons des gens tels le Dr Arruda, je pense que nous sommes en très bonne main.
Début du message.
Je fais du bien ces temps-ci, puis ce qui nous garde motivés, ben, c'est tous les travailleurs de la santé, dont mon conjoint, que j'envoie beaucoup d'amour et d'énergie positive. Dans ces temps difficiles, c'est pas un métier que je voudrais faire, donc tous ceux qui le font, merci de le faire avec votre patience.
Nathalie de Montréal, je travaille pour le service d'incendie de la Ville de Montréal à la répartition. On est une équipe de 10 par jour et par nuit. Je veux dire qu'on tient le fort, on nous oublie parfois les répartiteurs. Les gens les hôpitaux, les camionneurs, les gens des épiceries sont hyper importants. Mais ceux qui prennent les appels d'urgence et qui répondent aux citoyens, autant au 911 qu'Urgence Santé, que la police, que nous, le service d'incendie, on tient le fort et on essaie de se protéger parce que, en bout de ligne, on est la première ligne.
Les chercheurs du monde entier travaillent très fort pour découvrir un traitement.
Ces affaires, qu'est-ce qui nous donne l'espoir? C'est quand on nous donne le nombre de guérisons et que ce nombre augmente.
Début du message.
Oui, mon petit mot sur ma raison d'espérer, de continuer d'espérer.
Je m'arroge le droit à l'utopie et souhaite que plus rien ne soit pareil.
Oui, l'espoir a un nom. Les inconnus qui souffrent, les voisins qui s'entraident, les enfants qui cuisinent.
Tout cela se dessine derrière nos élans, notre bonne volonté, notre créativité en temps de crise. Et c'est tout cela qui me nourrit d'espoir.
Ce qui me donne de l'espoir, c'est que le ciel est toujours bleu derrière les nuages gris.
Bonjour, mon nom est Gaétan, je suis camionneur. J'ai entendu votre message, je suis dans l'Illinois présentement.
On lâche pas tout le monde, et puis merci à l'équipe du 15-18 de nous tenir informés, les gens de l'information, vous êtes tellement importants ces temps-ci.
Et je suis très contente de vous parler.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
C'est après tout ça, on va pouvoir se rassembler du bon vin, du bon pain, du bon spag et quelques câlins.
Je vous embrasse, en fait, de loin. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir et bonne journée.
Bonne journée.
Et bonne journée.
Bye.
Évidemment que c'est pourri, la distanciation sociale. Déjà, le mot distanciation sociale, beaucoup trop de S. Bah, faut pas avoir des problèmes de prononciation. Tu zozotes ou si tu chochotes, tu le dis pas en public. Hein. Distanciation sociale. Distanciation sociale. Rien que de le prononcer, t'as envoyé du Covid à 3 mètres. Elle est chelou, sa chemise, non? Elle doit commencer à manquer de vêtements pour faire des vidéos. Quoi, le rapport entre la chemise disco et la distanciation sociale? Ah, peut-être envie de faire la fête? Qu'est-ce qu'on fout dans la vidéo? Tu crois qu'elle nous voit? Tu vas te laver les mains comme si t'allais rentrer au bloc pour opérer toi-même une rupture d'anévrisme comme dans Grey's Anatomy. Faire de la mousse sur les mains, sous les les mains entre les doigts, dessus, dessous, et les ongles un par un. Se laver les mains est devenu encore plus chiant que de se laver les dents. Faudrait pas se laver les coudes aussi. Dans Grey's Anatomy, il lave les coudes. Tu vas chronométrer combien de temps la personne avec qui tu vis se lave les mains. Déjà ? Ah non, c'est 1 minute putain. 1 minute putain, c'est un couplet et un refrain de I Will Survive. C'est long. Il y aura des jours, on aura tellement marre de te laver les mains, tu vas rentrer des courses, on va te dire « Tu t'es lavé les mains ?»« Ouais, bien sûr, ouais !» Et ce sera pas vrai. Tu vas ouvrir des portes, avec tes coudes, avec tes pieds, avec ton cul, en sautant devant la cellule photoélectrique du magasin. Tout pour ne pas devoir utiliser tes mains. Si on te filme en train de rentrer dans ton immeuble, t'as l'air de Charlie Chaplin. Tu vas porter des gants, mais tu sauras pas réellement pourquoi. Non, parce qu'en fait, ça protège quand je fais les courses. Et enfin, là, tu viens de te gratter le nez avec. Ah, tu vas avoir tes potes de toujours au téléphone. Et ils vont te raconter leur confinement. Écoute, on a fait un déj super sympa avec les Rousset. Non, ça va, on était 4. On se connaît, on est pas malade. T'auras envie de les tarter. Mais tout ce que tu vas trouver à dire, c'est ah ouais, ah sympa, cool. Parce que t'as aucune envie qu'on t'appelle Mussolini les 10 prochaines années. Ces potes-là, tu sens bien que quand on leur a dit le déconfinement, c'est lundi. Eux, ce qu'ils ont entendu, c'est le déconfinement, c'est aujourd'hui. Tu vas porter un masque. Tu vas réaliser que tu pues la gueule, que tu peux pas du tout respirer et qu'il fait sacrément chaud là-dedans. Ta bouche, c'est l'incinérateur à déchets de Nanterre. Pangolin de merde. Tu sais qu'ils ont recommencé à en bouffer, ces connards. Tu vas voir des gens porter un masque avec le nez en dehors. Non, mais le nez dedans, c'est chiant, la bouche, ça suffit. Toi, tu vas faire un pas en arrière, prier pour qu'il postillonne pas du nez. Quand t'auras ton masque, tu vas avoir envie d'éternuer. Le temps de te demander si tu peux l'enlever, tu vas éternuer. Dedans. Baptisé à la morve. Tu vas croiser quelqu'un que tu connais dans la rue. Par réflexe, tu vas avoir envie de lui faire la bise. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est pas parce que tu connais la personne qu'elle va rien te refiler. La bonne santé, c'est pas une boîte de nuit avec un physio à l'entrée. Je connais tout le monde à l'intérieur, je peux rentrer. La vie, c'est pas un carré VIP où les gens qui se connaissent ne tombent pas malades. Oh, Jean-Jacques, tu nous ramènes une bouteille d'eau gel ? Ah, la métaphore de la boîte de nuit, c'est peut-être ça le lien avec la chemise disco. Tu vas t'équiper pour aller faire les courses. En sortant de chez toi, tu vas avoir la file de 300 mètres pour pouvoir entrer dans le Monoprix. Tu vas rentrer chez toi sans avoir fait tes courses. Tu vas faire la queue pour rentrer dans les magasins. Alors qu'avant tu faisais la queue seulement pour en sortir. C'est le bon temps. Comme tu vas t'emmerder dans la file d'attente, tu vas vérifier que les gens respectent les marques au sol. Et par la même occasion, réaliser que toi-même tu es beaucoup trop près. Une fois dans le magasin, tu vas trouver que les gens ont un tout petit peu trop besoin d'affection. Quand tu les regardes de loin, ils se tiennent tellement près les uns des autres, t'as l'impression qu'ils sont tous comme ça. Une fois arrivé au rayon pâte, tu vas te retrouver avec 8 personnes qui veulent se coller à toi comme des rideaux de douche pour comparer ensemble le prix au kilo des barils anormales et des barils à bio. Tu vas faire des détours pas possibles dans les rayons pour ne croiser personne. 45 minutes pour atteindre le liquide. Vaisselle. Tu vas patienter en dehors du rayon pour ne pas te coller aux gens qui y sont déjà. Au bout de 3 minutes à poireauter, t'en pourras plus, t'iras chercher ton PQ sans respirer. En faisant tes courses, t'as l'impression d'être au jardin botanique. D'un coup, t'as envie de flâner. Il y a 2 jours, t'étais à ça de prendre un bocal de choucroute en photo. Tu vas tourner le dos aux gens quand tu les croises. Et dans ton dos, tu vas les entendre faire « Oh, ça va la parano !» T'auras envie de leur cracher dessus. Tu vas te faire insulter. Moi, l'autre jour, je me suis fait traiter de connasse par un type qui me collait dans la file d'attente. Est-ce que je lui demandais de s'éloigner ? Le jour où c'est Ebola, c'est lui qui meurt en premier. Pendant tes courses avec ton masque, ton nez va commencer à te gratter. Le coin là. Ce nez t'a jamais autant gratté de toute ta vie. T'auras pas le droit d'y toucher. Tu vas tortiller ton nez sous le masque pour pas le... Il va ressembler à Jim Carrey. Au bout d'un moment, tu pourras plus résister. Tu vas te planquer au rayon soutien-gorge. Tu vas retirer ton masque par l'élastique, retirer ton gant, gratter ton nez, remettre ton gant, remettre ton masque et flipper que le vigile te choque comme si t'avais piqué un string. Dans la rue, parfois, de loin, tu vas voir arriver une grappe de gens. Tu vas flipper. T'auras l'impression de croiser des coronas vivants. Barrez-vous, con de mime! Tu vas réaliser que 90% des gens dans la rue ne savent pas ce que c'est que 1 mètre. Bordel. 1 mètre, bordel, en distance, c'est un coup de latte. Si je peux te mettre un coup de pied, c'est que tu es trop près. Si je peux te mettre une baffe, c'est que tu la mérites. Même quand tu seras rentré chez toi, t'auras envie de crier sur des gens. Tu vas regarder par la fenêtre, voir tes voisins se parler à 20 cm. 1 mètre, bordel! Vous voulez un coup de latte? Tu sais quoi? La distanciation sociale, tu t'en souviendras toute ta vie.
This is not a dying breed. So fight the fight and make it worth it. Just wake up and see. We got to stick together, spark it up, keep calm and breathe.
You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The men could kill my plans, but this is not a dying breed. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, so I get up, keep calm and breathe. You got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The men could kill my plans, but this is not a dying breed.
One injustice, one place, is an injustice in every place.
So much hate, so much this, so much that, so much pain. I just miss all my niggas, bring them back, and it's whack. I just focus on that, the people don't wanna fix it. They hear the screams and the wishes, you know we're black, they don't listen. You know a rat by the sniffing, my nigga Floyd wasn't tripping. He wasn't caught by the mitten, we knew the danger was hitting. These things are history written, so rewrite history, listen. Let's all just keep up the vision, I know we'll complete the mission. You got a voice, so be heard, just let them know that we heard. That's our, it's not just one word. And when there is trouble at hand, don't be afraid to stand. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, fuck it up, keep calm and breathe. You got the world inside your head, so keep it calm and breathe. The men could kill my plans, but this is not a dying breed. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, fuck it up, keep calm and breathe. Got the world inside your hands, so keep it calm and breathe. The men could kill my plans, but this is not a dying breed. So much hate, so much this, so much that, so much pain. I just miss all my niggas, bring them back, and it's whack. I just focus on that, the people don't wanna fix it. They hear the screams and the wishes, you know we're black, they don't listen. You know a rat by the sniffing, my nigga Floyd wasn't tripping. He wasn't caught by the mitten, we knew the danger was hitting. These things are history writ, so rewrite history, listen. Let's all just keep up the vision, I know we'll complete the mission. You got a voice, so be heard, just let them know that we heard. That's our, it's not just one word. And when there is trouble at hand, don't be afraid to stand. So fight the fight and make it worth it, just wake up and see. We got to stick together, fuck it up, keep calm and breathe. You got the world inside your head, so keep it calm and breathe. The men could kill my plans, but this is not a dying breed.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme malgré cette situation exceptionnelle qu'on est tous et toutes en train de vivre actuellement. Beaucoup d'entre nous sont confinés, plusieurs personnes sont seules. Et eh bien, je veux que vous sachiez que Télé 5 Monde est avec vous. On pense à vous, je pense à vous. Et parce qu'une information fiable est essentielle en temps de crise, eh bien, nous, on continue à vous informer le mieux possible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, on reste bien tranquillement chez nous, à la maison. On va se retrouver très vite. Allez, je vous embrasse.
Samedi soir, Saint-Jérôme. Un partisan tente d'intimider le défenseur Jonathan Diaby. Il le traite de poule mouillée et compare ses cheveux à une mope, une serpillière.
Là, personnellement, le spectateur devrait recevoir un avertissement, là.
Mais aucun partisan ne reçoit d'avertissement. Et l'animosité dégénère en insultes racistes.
Il y a eu des commentaires racistes qui se sont donnés envers moi et ma famille. Des bons vieux nègres, babouins, des trucs du genre. Tu comprends? Mon père même s'est fait même flatter les cheveux à un certain point, comme si c'était un alien ou un truc du genre. Là.
Le point de non-retour survient quand des partisans entourent et invectivent sa famille.
L'homme noir, c'est mon père en milieu. Il y a des gens qui sont en train de retourner chez eux. On voit ma soeur aussi, ma copine. À un certain point, je ne vais même pas me cacher. J'ai mis mon chien comme ça. Je cachais ma face, j'ai commencé à verser des larmes là, parce que ça avait juste plus de bon sens. Là, comme... Moi, je peux en prendre, mais voir ça, comme encore aujourd'hui, c'est impossible. Là, genre, c'est juste déplorable.
Après avoir avisé son capitaine, Jonathan Diaby décide finalement de quitter l'aréna avec sa famille.
En tant que commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, je tiens à m'excuser à Jonathan Diaby et aux membres de sa famille. Les propos racistes, sexistes, homophobes sont tout à fait inacceptables et intolérables.
Les commentaires racistes, homophobes et de tout genre n'ont pas leur place.
Sur les réseaux sociaux, les appuis aux joueurs déferlent depuis samedi.
C'est inacceptable.
C'est des gestes qui sont regrettables, qui sont vraiment absolument dégueulasses.
mais certains estiment que les équipes doivent assumer leurs responsabilités.
T'arrêtes le match, tu vas voir l'équipe locale, c'est la responsabilité, la sécurité de la renforcer. Ça donne quoi d'avoir de la sécurité dans un match s'ils font rien?
On s'excuse pour ce qui s'est passé, naturellement. On va s'organiser pour pas que ça se reproduise.
Les propriétaires disent aussi vouloir renforcer la sécurité, identifier les partisans qui ont été agressifs, qui ont tenu des propos racistes, pour les exclure des matchs à l'avenir. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Kader. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Sous les fenêtres de la Maison Blanche, des hommes et des femmes font face aux forces de l'ordre. Des images improbables devant le symbole de l'Amérique. Au-delà de la colère de ces manifestants, cette révolte gagne des dizaines de villes américaines, comme ici à Saint-Paul.
On ne se bat pas seulement pour George Floyd, on se bat pour un avenir sans cette police, parce qu'on sait que fondamentalement notre institution, l'État, nous tue.
Je ne veux pas être ici, mais je le suis, et je suis prête à me battre, et j'espère que beaucoup de gens le sont aussi.
Un peu partout dans le pays, de jour comme de nuit, des scènes de violence et d'affrontement, mais aussi de fraternité et de courage. À l'image de ces policiers et manifestants, main dans la main, à Atlanta.
Oui, bonjour, je pourrais parler à monsieur Frédéric Boiron, s'il vous plaît.
C'est moi.
Bonjour, monsieur Boiron, tout va bien? Vous êtes toujours en mode de confinement?
Oui, oui, il n'y a pas de problème.
Ou peut-être un déconfinement progressif?
Progressif, oui.
Écoutez, merci.
Ça va bien?
Oui, 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 cela me fait plaisir de vous avoir et on parle beaucoup de vous, hein, parce que vous piquez à vif notre curiosité avec vos blogs et vos articles dans les journaux ces temps-ci.
Oui,
non, c'est mon rôle. Écoutez, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes un auteur, écrivain atypique, engagé, sociologue, professeur, blogueur, très actif d'ailleurs. Vous brisez un peu les codes journalistiques, à mon avis, avec des analyses, des réflexions sur les grands débats, les sujets locaux, internationaux, touchant aux droits de la personne, à la politique, l'économie, la culture. Et enfin, nous sommes très heureux que vous soyez au sein de notre équipe pour nous aider justement à regarder ce Canada, à regarder le monde de la culture et les grands événements qui se déroulent sur notre planète avec un autre regard. Et merci pour ce que vous êtes et merci d'être parmi nous. Cela nous fait très plaisir. Alors, avec tous les événements, les tragédies de l'heure, cher ami, je ne sais où commencer. Mais commençons d'abord de votre dernier blog et article sur la pandémie paru dans le journal La Presse de Montréal, dimanche 31 mai dernier. Distanciation sociale, et selon vous, c'est une expression utilisée à tue-tête et maladroitement pour parler d'écart physique qui pourtant cache une réalité plus troublante, plus préoccupante. Expliquez-vous.
En fait,
dire qu'en anglais, social distancing, c'est l'expression utilisée pour déterminer la distance physique entre les individus. Mais en français, la distanciation sociale, c'est l'écart qui existe entre des groupes de personnes, entre des individus. C'est donc l'écart de classe ou l'écart de caste sociale. Donc, ce n'est pas la bonne expression à utiliser quand on parle de se tenir à 6 pieds ou à 2 mètres des gens. C'est, on utilise l'expression distanciation physique. Je dois quand même admettre que depuis quelques semaines, je me rends compte que dans la francophonie, on dit maintenant distanciation physique et non plus distanciation sociale. Je n'en avais pas parlé avant parce que c'est quelque chose qui me préoccupait. Je n'en avais pas parlé avant parce que il y a un moment pour faire cette pédagogie. Au moment où on a commencé à dire ça, je me suis dit, bon, oui, moi, ça me dérange, mais ce qui est important dans une pandémie, comme on l'a vu, c'est que les gens comprennent cette consigne-là. À partir du moment où c'était compris, c'était pas grave. Maintenant, il faut qu'on arrête d'utiliser cette expression parce que ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train effectivement d'exprimer, c'est la discrimination qu'on fait vis-à-vis les autres. Et c'est la différence entre le « nous » et les autres. Et au Québec en particulier, c'est une expression qui est tellement forte quand on dit « nous » et « eux autres ». Donc la distanciation sociale, c'est exactement ça. C'est « nous » et « eux autres ». Et le « eux autres » peut être n'importe qui. Hein? Et on connaît les grands termes du « eux autres ».« Eux autres », ce sont les Noirs, les étrangers, les immigrants, les femmes, les gays, les lesbiennes, les Amérindiens. Donc on a toujours « nous » et quelqu'un d'autre qu'on veut tenir loin de nous. C'est ça la distanciation sociale. Et je pense que si on ne casse pas cette expression-là à ce moment-ci et qu'on continue à l'utiliser, à un moment donné, ça pourrait jouer contre nous, contre l'équilibre social, contre l'harmonie sociale.
Alors, c'est tellement intéressant ce que vous dites là, parce qu'il y a beaucoup de mes amis québécois qui sont maintenant à Toronto pour des raisons personnelles, des fois pour des boulots ou questions sociales ou quoi. Ils ont préféré déménager justement du Québec parce qu'il y avait toujours dans ce langage un double sens. Mais dans le passé, au lieu de dire « nous, les autres » et « les autres », on utilisait carrément le mot « tricoté serré », c'est-à-dire les pures laines.
Oui, bien sûr, mais...
Donc ça a évolué depuis.
Ah, ben, ouais, non, je ne crois pas. Moi, je dis qu'il faut faire attention. On parlera sûrement des États-Unis à un moment donné, vous et moi, tantôt ou une autre fois, mais... Je dis tout le temps qu'il faut faire attention. On peut changer des structures du jour au lendemain, mais on ne change pas des cultures du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on va traîner pendant des années. Et mon rôle à moi, comme sociologue, c'est justement de lever le drapeau, hein, de dire, faites attention, vous êtes en train peut-être de dire quelque chose qui pourrait être dangereux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais maintenant, il faut arrêter tout de suite de dire ces choses-là parce que vous êtes en train de prendre une position discriminatoire. Donc, oui, au Québec, il y a toujours eu cet écart, cette distance sociale entre les pures laines et les autres. Ce n'est pas, je ne dégraisse pas les Québécois pures laines de ça, mais ce n'est rien de différent de ce qu'on voit dans d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'il y a toujours des regroupements d'individus qui s'identifient entre eux par rapport à une variable précise. Ici, au Québec, ce sont les pures laines. Ailleurs, ça va être autre chose. Ça va être autre façon de se distinguer des autres. Mmh. C'est ça le vrai mot. Hein?
Oui.
La distanciation sociale, c'est comment est-ce que je me distingue des autres? Comment est-ce que je suis différent? Et là, si je vais encore plus loin quand on dit distinguer, et c'est encore plus précis en anglais, c'est être supérieur aux autres.
Oui.
Alors, c'est là que ça devient dangereux.
Et d'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, même dans des pays africains ou dans les Antilles, là aussi, il y a des séparations hein, de classe, niveau social ou couleur de peau, l'endroit où on habite. il y a toujours cette différence de classe, et ça fait débat hein, depuis des années et des années et des siècles. On a reçu beaucoup de commentaires depuis que ce mot est sorti, la distanciation sociale ou physique. Il y a une dame qui nous écrit, qui nous dit quelle est la différence entre la distanciation sociale et l'auto-isolement.
L'auto-isolement peut être quelque chose d'individuel.
Ouais.
Et un choix personnel de s'auto-isoler. La distanciation sociale, justement, c'est que vous êtes isolé. Les autres vous isolent. Et là, on ne parle pas... Il y a un autre auteur, un sociologue qui parle de ça. Lui, il parle de distance sociale. C'est vous qui choisissez de faire cette distance avec les autres. Alors, ce dont on parle en distanciation sociale, c'est que les autres choisissent de vous exclure, mais pas comme individu, mais comme groupe, comme noir, comme immigrant, comme latino-américain. Donc, et on se retrouve à... On peut se poser des questions, par exemple, quelle est la distance sociale qui existe entre Toronto et Mississauga, par exemple, entre Montréal et Laval. Quelle est la distance sociale? Ce n'est pas une distance qui se mesure en kilomètres. C'est une distance qui se mesure en niveau de vie.
Et oui.
Et vous?
C'est ça. Alors, bon, c'est tellement intéressant ce que vous dites là. Alors, je rappelle aux gens que je suis avec le professeur sociologue Frédéric Aboiron en direct de Montréal. Alors, on sait que la COVID-19 a frappé durement les résidences pour aînés au Québec, en Ontario. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a tout un rapport assez accablant des forces armées canadiennes qui démontre clairement les conditions inhumaines des résidents dans ces maisons en Ontario et à Montréal aussi. Alors, donc, on voit que Montréal, Toronto ont été durement touchés par la pandémie. Et nous avons assisté en même temps, cher ami, à toute une polémique ces dernières semaines concernant les travailleurs, travailleuses qui œuvrent dans les services essentiels et les soins de santé au Québec et en Ontario. On nous a même informé que plusieurs travailleurs étrangers temporaires ont été mis à pied en raison de la COVID-19. Or, il y a parmi ces travailleurs essentiels qui sont des immigrants et dont le Québec, l'Ontario en ont bien besoin. Donc, alors, est-ce qu'ils devraient trancher? Je sais que ça remonte quand même au gouvernement fédéral d'avoir mainmise sur la décision finale, mais devons-nous quand même être un peu plus conciliants et de donner un permis de séjour permanent à ces immigrants?
Demandeur d'asile, le principe est que la personne doit faire la démonstration qu'elle est en danger dans son pays de provenance. Si la personne est incapable de faire la démonstration qu'elle est en danger, elle serait en danger de mort si on la retournait dans son pays, on va la retourner parce que c'est cette démonstration-là qu'il faut faire. Maintenant, la plupart des pays dont proviennent les demandeurs d'asile présentement n'ont pas encore atteint le sommet en termes de pandémie. Donc, éventuellement, dans les prochains mois, tant qu'on n'aura pas un vaccin, les gens seraient en danger en retournant dans leur pays. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait aussi considérer que ces gens-là ne seraient probablement pas en danger dans leur pays, mais on les a mis en danger ici. Donc, qu'est-ce que ça vaut de prendre des gens qui, s'ils étaient retournés, par exemple, en Haïti, où la pandémie, ou l'épidémie, puisque si on se circoncit dans le pays comme tel, n'a pas la même virulence qu'elle a au Québec, la personne se répondrait probablement moins de danger de vivre en Haïti que de vivre ici par rapport à cette épidémie-là, par rapport à cette maladie. Donc, mais pourtant, c'est cette même personne qu'on met en danger ici. Il y a un article qui est sorti dans la presse aujourd'hui sur une enquête qui a été faite qui a démontré que les demandeurs d'asile qui étaient envoyés dans les ressources pour personnes âgées n'étaient pas préparés. C'est-à-dire qu'on les a envoyés au combat sans armes, sans bouclier, sans aucune forme de protection. Donc on les a envoyés dans une situation qui les mettait en péril. Est-ce que ça a une valeur? Quand François Legault dit que les personnes qui travaillent, le premier ministre du Québec dit que les personnes qui travaillaient dans ces milieux-là étaient des anges gardiens. J'espère qu'il savait de qui il parlait. Parce que quand on a des anges gardiens qui veillent à notre bien-être, je pense que ça a une valeur aussi. Cependant, moi, ce que je dis, je ne voudrais pas non plus qu'il y ait un double standard pour les demandeurs d'asile. Je voudrais que le standard soit le même. Il y a des gens qui sont arrivés au Québec qui n'ont peut-être pas fait le choix d'aller au Québec et en Ontario, qui n'ont pas fait le choix d'aller vers ce milieu-là, mais qui aussi ont contribué directement ou indirectement à nous aider à passer à travers. Donc, que ce soit des agents de sécurité, des personnes qui travaillent dans le secteur de l'alimentation, etc., de toute façon, ils se retrouvent dans des secteurs qui étaient essentiels. De toute façon. D'accord? Parce que ce sont les emplois les plus précaires, les emplois dont personne ne veut. Alors, il faut le dire aussi. S'il y a une pénurie de préposés au Québec, c'est parce que personne n'en veut. Personne ne veut de cet emploi-là. Imaginez que les travailleurs qui font un job de préposé aux bénéficiaires qui travaillent pour l'État gagnent $22.50 et ceux qui travaillent dans le privé qui n'ont aucune protection gagnent $13. Donc, il y a $9 de différence entre les gens qui travaillent pour l'État, qui sont bien couverts, qui ne sont pas des immigrants, et les immigrants qui travaillent dans le secteur privé qui, eux, gagnent $13 de l'heure. Alors, mais... moi, le principe le plus fondamental, c'est à travail égal, salaire égal. Statut égal.
Mais en même temps, je suis tellement, tellement heureux de voir les réactionnaires, des personnes comme vous. Il y a aussi un jeune d'origine haïtienne qui fait un travail fabuleux dans la région de Montréal. C'est Fabrice Ville, qui sera peut-être à l'antenne ce dimanche ou la semaine ou très bientôt. C'est dommage que vous devez toujours répéter la même histoire. 40 ans que je suis au Canada, et là justement je vais parler maintenant de ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis à feu et à sang, rien ne va plus. À la suite du meurtre de George Floyd par un policier blanc, une tragédie qui a provoqué une onde de choc mondiale. Il y a eu de nombreuses manifestations, des fois violentes, dans les grandes villes des États-Unis, à Montréal, à Toronto, dans les grandes villes européennes, Berlin, Londres. Et une auditrice nous écrit « Ce matin, ma fille m'a demandé si c'était mieux d'être noir ou d'être blanc. » Avez-vous une réponse pour cette dame?
Entre être noir et être blanc, au départ, biologiquement. Tout le reste va se jouer en société. Et il n'y a pas de meilleur ou de moins pire ou quoi que ce soit. Il y a ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et quelle position qu'on veut faire? Quelle position qu'on veut avoir? Moi, je crois que ce n'est pas une question de est-ce qu'on est meilleur si on est noir ou si on est blanc. Je pense que est-ce qu'on est meilleur on est meilleur en fonction de la façon qu'on participe à la recherche de solutions. Je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la mort de Floyd, et c'est ça qui explique tout, c'est que cette fois-ci, le problème n'est plus un problème de noir, c'est un problème de blanc. C'est la première fois qu'il n'y a aucun équivoque sur le crime qui s'est passé. Aucun équivoque. On a vu des gens se faire tirer parce que tirer dans le dos parce que le flasheur de son auto ne fonctionnait pas. On a vu Sandra Bland rentrer dans une prison, ne pas en ressortir, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment entre George Zimmerman et le jeune qui rentrait, Trayvon Martin. On ne sait pas, mais cette fois-ci, on a vu. Et chaque personne, pour cet enfant-là qui se demande si c'est meilleur d'être noir ou d'être blanc, chaque personne doit se mettre à la place de George Floyd. Et chaque personne doit se mettre à la place du policier pour se poser la question. Est-ce que j'aurais pu être George Floyd? Et est-ce que j'aurais pu être ce policier? Et quelle que soit la réponse que vous allez avoir, elle va être oui, mais à un pourcentage. Il y a probablement chez chacun de nous 0,001% de ce bonhomme qui a mis son genou sur le cou de George Floyd. Il y a probablement quelque chose comme 0,001% qui nous ressemble à George Floyd, qu'on soit blanc, amérindien ou noir. Il y a quelque chose qui nous ressemble. Il y a un parcours qui nous ressemble. On doit se poser la question. Et là, chacun doit se poser la question. Qu'est-ce que moi, je dois changer pour que ça n'arrive pas, pour que ça ne m'arrive pas ou pour que moi, je ne sois pas l'agresseur? Et quand on ne se pose pas ces questions-là, on n'aura pas la réponse. Mais la réponse, elle nous appartient à chacun de nous.
Vous savez que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas très très au courant de la petite histoire du Canada, c'est sûr que le Canada peut-être a fait une bonne figure comparable à ce qui se passe aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Montréal, il y a eu aussi des contrôles de rue profilage racial. La police d'Halifax, par exemple, et de Montréal ont dû s'excuser, hein, pas tellement longtemps, je pense l'année dernière ou l'année d'avant. Ils ont dû s'excuser publiquement. Donc, le racisme persiste au sein pas seulement de la force policière, mais aussi sur le marché du travail. On voit qu'il y a un rapport publié en 2018-2019 qui démontre qu'il y a très très peu ou pas de progrès qui ont été réalisés dans la réduction du racisme sur le marché du travail au Canada. Alors, peut-être pensez-vous qu'il y a toujours encore un racisme systémique dans les forces policières au Canada?
D'abord, il n'y a aucune société qui échappe au phénomène du racisme. Aucune. Il n'y a aucune société qui peut prétendre être égalitaire et que ça échappe au racisme, à la misogynie, à l'homophobie. Aucune. Aucune société n'échappe à ça. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ici, au Canada, nous ne sommes pas exempts de ces problèmes-là. On a juste à regarder, on parle de la situation des Noirs aux États-Unis, mais on a juste à regarder la question des Autochtones pour voir comment est-ce que nous n'avons pas de leçons à donner à personne. Non, on a juste à regarder dans notre histoire la façon qu'on a traité les Japonais. On a des choses. Nos premiers ministres ont présenté des excuses à nombreuses reprises pour des choses qui sont dans notre histoire. On n'a rien à envier aux autres dans nos malheurs. Dans nos tards, on n'a rien à envier aux autres. Donc, il ne faut pas croire que la société canadienne est une société qui est exemplaire. Ben oui, il y a pire que nous. Mais ce n'est pas une échelle de savoir qui est meilleur et qui est pire dans le mal. Donc, oui, on n'échappe pas. La police à Montréal, à Toronto, à Halifax, effectivement, sont des systèmes gangrénés qui reconnaissent tant bien que mal, des fois, pas justement leur tort, mais les faits sont là pour parler. Les faits sont là. D'accord? Mais je veux revenir sur la question des États-Unis, parce que pour moi, c'est extrêmement important qu'on comprenne quelque chose aux États-Unis, qu'on n'en parle pas assez. Les États-Unis ont été construits, quand on regarde le statut de Rome, qui donne la liste des crimes contre l'humanité. Eh bien, quand on prend cette liste-là et qu'on passe à travers, on se rend compte que les États-Unis ont été construits sur tout ce qui est aujourd'hui considéré comme des crimes contre l'humanité. D'accord? Et on a souvent tendance à dire qu'il s'agit d'une démocratie. C'est faux. Les États-Unis ne forment pas une démocratie. Dans une démocratie, les gens ne se font pas justice eux-mêmes avec des lois comme Stand Your Ground. Ça n'existe pas. Dans une démocratie, la loi ne prévoit pas que les gens peuvent s'armer pour tuer les autres s'ils se sentent menacés. Ça n'existe pas. Il y a des systèmes de justice. Il y a l'État qui fait ça. D'accord? Aux États-Unis, nous ne sommes pas dans une démocratie. Il ne faut jamais perdre de vue que les États-Unis, non, ce n'est, quand on dit que ce pays est un pays raciste, on leur fait un cadeau. Non. C'est un pays qui a été construit sur l'apartheid. En 1865, à la fin de la guerre de sécession, la première chose qui a été faite, c'est la American Colonization Organization qui a construit un pays artificiel qui s'appelle le Liberia pour y exporter les Noirs parce que non, on ne voulait pas les avoir dans le pays. Donc, l'objectif aux États-Unis a toujours été un développement séparé. Et le développement séparé s'est fait parce qu'on était incapable de retourner les Africains. mis en place pour que les Noirs et les Blancs vivent dans deux sociétés distinctes. Et quand on regarde le nombre de gated communities aux États-Unis, voici donc l'indicateur le plus précis de l'apartheid qu'on vit actuellement aux États-Unis tel quel.
Pensez-vous que avoir un premier président noir, Barack Obama, c'est ça qui a propulsé aujourd'hui Donald Trump au pouvoir?
Non, je ne crois pas que ce soit ça, parce que je n'ai pas eu l'impression, moi en tout cas, que Barack Obama était un président noir. Barack Obama était un président américain. D'ailleurs, pendant, je dis et je l'ai écrit, que Barack Obama a commencé à dire qu'il est noir 2 ans avant la fin de son deuxième mandat. Donc, ce n'était pas une. C'était un président américain et qui n'a pas résolu les problématiques les plus importantes. Oui, il était sensible à ces choses-là, mais Barack Obama s'est tenu en président américain. Oui, on peut toujours faire un lien par le fait que Donald Trump n'est pas issu du Parti républicain, mais du Tea Party, qui était le parti qui contestait Obama sur la base de sa de son lieu de naissance en réalité. C'était le fondement même du Tea Party, c'était de dire qu'Obama n'est pas né aux États-Unis, qu'il n'est pas américain. Et Donald Trump était un des grands financiers du Tea Party. Mais de là à dire que c'est ce qui a révolté les Américains, je ne crois pas. Je crois que Obama est un accident de parcours dans l'histoire des États-Unis. C'est un accident de parcours. On n'a pas voté pour un noir, on a voté pour le meilleur candidat qui était là. La majorité a voté pour le meilleur candidat qui était là, dans les deux fois d'ailleurs. Je pense que Obama s'est retrouvé avec deux candidats vraiment moribonds. Et ça l'a aidé. On prend John McCain ou on prend, je ne me rappelle plus, le sénateur du Massachusetts, ben, c'était quand même pas des candidats de poids. Et le parti est en déroute de toute façon.
Vous suivez tout ça sans doute avec beaucoup d'intérêt, hein. Si on peut garder le contact pour de temps en temps avoir votre opinion, votre regard, parce que j'ai l'impression que ça va chauffer là aux États-Unis d'ici jusqu'aux prochaines élections présidentielles.
Mais rappelez-vous quand même d'une chose. À l'élection contre Hillary Clinton, Donald Trump avait dit qu'il allait contester les résultats s'il ne gagnait pas. D'accord ? Rappelez-vous de ça. Et là, il est déjà en train de le faire. Dans le contexte de la pandémie, où il sera difficile de tenir des bureaux de vote, ou peut-être qu'il ne sera pas possible de voter, il est déjà en train de contester des mécanismes qui pourraient être mis en place pour pouvoir tenir des élections dans un contexte de pandémie. Gardez ça en tête, que Donald Trump avait dit qu'il contesterait les résultats si Hillary Clinton gagnait. Attendez-vous à ce qu'il le fasse. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui et soustrayez la question économique, vous allez voir que ce pays est un pays du tiers-monde.
C'est fort ce que vous dites, professeur Frédéric Boiron. Je vous invite, madame, monsieur, à visiter son blog. C'est une vraie bouffée d'air frais, un regard différent sur l'actualité. Les blogs à lire absolument, au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit, et ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Il porte un regard critique sur l'état de nos démocraties, et je me permets d'ajouter que vous êtes peut-être une des rares personnes de couleur qui jouait dans la cour des grands. Parce que oui, on vous entend à Radio-Canada de temps en temps, vous écrivez dans la presse, il y a Le Devoir qui reprennent vos articles. Et donc, à mon avis, en 2020, dans la communauté francophone, il est temps d'avoir des journalistes comme vous, et, ayant votre profil, parce que malheureusement, nous sommes absentés, je dirais, dans les grands médias, dans les grands débats, dans les enjeux de société du Canada. Et c'est bon, ça fait du bien d'avoir des gens comme vous. Et bravo pour tout le travail que vous faites.
Merci beaucoup. Je soulignerai que j'ai un troisième livre qui devait sortir, mais bon, la pandémie a cassé un peu les choses. Ça va s'appeler « Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite ». Donc, surveillez, ça s'en vient.
Merci infiniment, Frédéric Boiron. Et les gens peuvent aller sur notre site popourrishow.com pour avoir tous les liens nécessaires pour entrer en contact avec vous. Il y a des professeurs, on sait, qui nous écoutent régulièrement. Donc, Ne soyez pas surpris de recevoir un appel un jour d'un de nos professeurs de l'Université de Toronto qui, pour vous inviter à passer dans leur classe. Alors, que la force soit avec vous et à très bientôt.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
CIUT 89.5, Toronto.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Sous les fenêtres de la Maison Blanche, des hommes et des femmes font face aux forces de l'ordre. Des images improbables devant le symbole de l'Amérique. Au-delà de la colère de ces manifestants, cette révolte gagne des dizaines de villes américaines, comme ici à Saint-Paul.
On ne se bat pas seulement pour George Floyd, on se bat pour un avenir sans cette police, parce qu'on sait que fondamentalement notre institution, l'État, nous tue.
Je ne veux pas être ici, mais je le suis, et je suis prête à me battre, et j'espère que beaucoup de gens le sont aussi.
Un peu partout dans le pays, de jour comme de nuit, des scènes de violence et d'affrontement, mais aussi de fraternité et de courage, à l'image de ces policiers et manifestants, main dans la main, à Atlanta.
On a été pacifique toute la journée, alors restons-le. La police est avec nous.
Ou encore de cet officier pliant le genou. Un geste symbolique, encore impensable il y a quelques jours de la part d'un officiel.
Le changement peut commencer ce soir.
En marge des manifestations pacifiques, de nombreuses scènes de pillage et de destruction ont eu lieu, comme ici à Philadelphie. Des centaines de personnes ont été arrêtées, des couvre-feux ont été décrétés dans plus de 40 villes américaines et 15 États ont fait appel à la garde nationale.
Oui, bonjour, je pourrais parler à Jean Faugéba, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi, Jean Faugéba.
Bonjour, Jean Faugéba, ça va?
Bonjour, c'est Monsieur Eric.
Oui, bien sûr, vous êtes en direct sur CUT 89,5 FM, vous êtes toujours en mode de confinement ou pas?
Je suis, oui, je suis toujours avec toute la famille, on est en confinement.
Ouais.
Et j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, donc c'est au moins ça, ça va, on n'est pas obligé de sortir.
Oui. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes auteur, compositeur, interprète d'origine camerounaise et vous vivez à Toronto depuis plusieurs années maintenant. On vous a vu dans plusieurs concerts dans la région de Toronto. Vous avez passé à l'antenne à plusieurs reprises. Et comme à chaque grand événement ou occasion, c'est à travers la chanson que vous décidez de vous exprimer. Et là, c'était sur les récentes émeutes raciales aux États-Unis. Que nous dit cette chanson que vous avez composée, que les auditeurs vont découvrir au cours de cette émission?
Oui, c'est une chanson en langue pamileke. C'est une langue qui est parlée essentiellement dans l'ouest du Cameroun et dans les grandes métropoles du Cameroun. Et c'est une chanson qui invoque la justice divine. Parce que dans une situation, il y a des situations où s'en remettre, on s'en remet à la divinité pour essayer d'être inspiré, de trouver l'inspiration pour réagir, n'est-ce pas, face à des situations aussi graves que celles que nous avons tous vécues aux États, en voyant cette image de George Floyd, n'est-ce pas, c'est une situation qui est vraiment, qui donne des sueurs froides, en fait. Mm. Et donc, c'est dans cette chanson, en langue bamileke, donc, j'invoque, n'est-ce pas, l'intervention, n'est-ce pas, les forces qui nous dépassent pour essayer de nous aider à traverser ce moment. C'est un peu ça le sens de la chanson.
Alors, dimanche dernier, nous avons assisté à des manifestations monstres et ça déborde les frontières des États-Unis. On en a vu à Toronto, à Montréal, dans des grandes villes en Europe. À Montréal, il faut bien rappeler aux gens qu'il y a eu des assassinats de personnes noires, des assassinats commis par des policiers de race blanche à Montréal. Et ici, on parle de Bonnie Jean-Pierre, tué en 2016, et de Nicolas Gibbs en 2018. Est-ce que vous, personnellement, Jean Faugéba, vous qui vivez à Toronto depuis plusieurs années maintenant, vous avez une petite famille, et est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà eu des démêlés avec les policiers de la ville de Toronto?
Bon, je dirais que pas vraiment, j'ai pas eu de démêlés. Peut-être c'est une chance, mais certainement qu'il ne faut pas nier le fait que le racisme n'est pas seulement le racisme par rapport à la police, mais c'est par rapport... Et ça s'exprime dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine social, du travail, de la recherche de logement. Vous voyez, donc, je pourrais vous dire que le racisme, ce n'est pas seulement anti. C'est pas seulement blanc-noir, mais il y a aussi le racisme qui vient, n'est-ce pas, que ce soit des Indiens ou bien des Chinois. Et donc, ça, c'est un racisme multiforme. Et je peux vous dire que, pour la petite histoire, pour ce qui me concerne, c'est que j'ai eu, par exemple, un Indien qui s'est présenté à ma porte. Et puis, il m'a dit, je cherche le propriétaire du domicile. J'ai dit, c'est... Et puis son ami a dit, c'est lui le propriétaire. Il a dit, non, un noir ne peut pas être propriétaire. Vous voyez, ça, c'est une petite anecdote
Alors, vous avez des enfants. Sont-ils assez grands pour comprendre de ce qui se passe actuellement aux États-Unis?
Non, ils ne sont pas. Ils sont pas vraiment assez grands pour comprendre ça. On a vraiment cette peur pour eux. On a cette peur pour eux. On se demande quel est le monde dans lequel ils vont grandir. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Et si quelque chose n'est pas fait pour qu'il y ait changement, est-ce que ça va aller s'empirant ou bien ça va aller en s'améliorant? On a un peu des inquiétudes par rapport à ça.
Parce que je pense pour les gens qui quittent le Cameroun, qui quittent le continent africain, ils rêvent d'avoir peut-être un jour une vie meilleure en Amérique du Nord. Et là, je vois d'après les sondages, mais aussi plusieurs réseaux sociaux, les Africains se posent des questions. Ils ne sont pas ravis, mais en même temps, ils disent comment expliquer les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, est confrontée avec ce virus qui est un virus qui s'appelle... pas non plus seulement COVID-19, mais c'est un racisme systémique aux États-Unis.
Vous avez bien raison d'insister sur le mot systémique parce que c'est même le président Obama n'a pas pu venir à bout de ça. Donc, c'est parce que c'est un racisme qui est dans la loi même. Donc, vous voyez, dans la législation et dans les institutions. Et c'est ça qui fait que c'est complexe. C'est complexe à gérer parce que c'est un système qui est dur depuis près de 400 ans, sinon plus. Mais on a bon espoir que. On est vraiment très fiers, n'est-ce pas, de la réaction malgré. Ce racisme, on est quand même fier de la réaction des Américains face à ce racisme qu'ils sont en train de montrer à leur indignation en grand nombre. Donc, ça donne quand même ça, c'est une petite lueur, une étincelle de désespoir qui se dessine en fait.
Écoutez, je vous remercie infiniment. Je rappelle aux gens que vous avez composé donc une chanson en hommage à George Floyd, cet homme noir abattu par un policier blanc le 25 mai dernier à l'extérieur d'un magasin à Minneapolis, au Minnesota. Et depuis, nous avons assisté à une explosion de manifestations, des fois violentes, dans les grandes villes américaines, mais aussi à Montréal, à Toronto et en Europe. Jean Faugeba, auteur, compositeur, chanteur, et il était parmi les gagnants d'un prix spécial au 4e gala torontois de la musique afro-caribéenne en 2019. Il faut bien le citer, n'est-ce pas? Écoutez, je vous remercie infiniment et que la force soit avec vous et votre famille.
Merci beaucoup, Monsieur Eric, de votre émission qui rend beaucoup de services à notre communauté. Merci beaucoup de votre passion pour l'information. Et pour l'entraide. Merci beaucoup.
À très bientôt. Au revoir.
Yeah. perdu parce que je me dis c'est pas possible, on est au 21e siècle, on est en France, on est dans un spectacle d'humour, c'est pas possible, j'ai pas entendu ça. C'est pour ça que je demande trois fois, pour lui laisser une chance de désamorcer, de s'excuser, de dire mais non je rigole, donc je redemande pardon. Et là j'entends une voix ferme et sans équivoque qui dit j'ai dit sale noir. Donc là en moi ça boue, j'ai des idées de violence, j'ai envie de descendre sur scène et que ça finisse aux mains. Mais j'ai un sursaut de, je sais pas, de lucidité ou de sensibilité, de fragilité, qui je me dis wow, non, c'est pas la bonne solution. J'ai pas à répondre à la violence par la violence. Moi, dans mon spectacle, je prône la tolérance, je prône le vivre ensemble, je prône l'amour. Donc, en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme, je ne pouvais aller que dans cette direction-là. Donc, je prends le parti de mettre cette personne face à sa propre bêtise.
Mais t'aurais dû fermer ta gueule, en fait. T'as vu ce qu'on appelle un malaise, qui est la merde dans le spectacle. À part de la gêne pour toi, tout le monde est gêné pour toi. Et tu te dis, j'aurais dû me taire, en fait.
Les gens ont ri, peut-être pensant que c'était un complice, tellement c'était gros. C'est inimaginable qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse se lever et dire sale noir dans l'impunité totale devant tout le monde. Quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu tous les messages de soutien que j'ai reçus, quand j'ai vu les histoires que les gens m'ont racontées, ils m'ont tous dit, t'es quelqu'un de médiatisé, tu ne peux pas laisser passer ça. Ce serait envoyer un mauvais signe pour les personnes qui vivent ça au quotidien. Donc oui, je ne peux pas laisser passer ça et je vais porter plainte. Quand je vois les politiques toute l'année qui parfois divisent, qui parfois cherchent à souffler sur des braises, je me dis là, quand il se passe quelque chose comme ça, et j'ai envie aussi d'avoir le soutien des politiques. Il y a beaucoup de racisme en France.
Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous lire quelques messages rapides. Racisme aux États-Unis, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont les séquelles de l'esclavage, a signé Michel. Merci. de l'artiste R le Premier qui était à l'émission la semaine dernière. D'ailleurs, nous avons reçu beaucoup de bons commentaires, de bonnes réactions. Autrefois, j'étais esclave dans les sans salas. Aujourd'hui, je suis un artiste. Je fais de la scène, ça va. Et je réalise que c'est la galère ici, mais pas là-bas. Pour couvrir nos cicatrices, il faudra des milliers de paquets de sparadrap. Quelle ironie pour penser ces blessures millénaires. On peine encore à trouver un sparadrap adapté à la peau noire. Enfin, ce n'est qu'un petit détail, un constat dérisoire. La discrimination raciale remonte à la nuit des temps. Elle perdure depuis si longtemps que l'on peut s'accorder sur un fait. S'il était facile de feindre le racisme, nous aurions réussi ce pari. Il y a belle lurette. Fabril Ville, avocat, coach, journaliste qui écrit dans le journal Le Devoir, qui est très connu d'ailleurs dans la région de Montréal, il écrit « Nous sommes toutes et tous privilégiés à certains égards, opprimés à d'autres, et quelles sont nos responsabilités face à nos privilèges ?» Voilà la question qu'il nous pose. « Chacun a son libre arbitre ici. J'ai choisi d'utiliser mes privilèges, donc ma tribune, pour m'exprimer sans réserve au service d'un monde plus juste. » Signé Fabrice Ville, avocat, coach, journaliste, merci. Merci, chers amis, pour cette grande solidarité. Et nous vivons des moments très difficiles. Merci pour votre soutien, pour votre amitié. Merci à tous nos invités et collaborateurs. Maître Peter Bureau, professeur Elie Bouraoui, Frédéric Boiron, Jean Faugeba, Fabrice Ville, la télévision Berbère, Caroline Laurent, Améclé Fontaine, DJ Devera. Un petit rappel, dès le 15 juin, c'est notre campagne d'adhésion. Et cette année, tout se passe en ligne uniquement pour des raisons qu'on connaît. www.cut.fm ou encore envoyez-nous un message popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Bon dimanche, bonne semaine et que la force soit avec vous.
Yeah. Yeah. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan à Dayato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas def. Follow Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gautier, je choquais. Les Blue Jeans avaient quatre ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant, entre les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent les temps.
Ce putain de gun,
vas-y,
va braquer.
Tu rentres, tu prends la caisse et on dégage.
Les temps changent.
Je vais à la fac de la façon la plus lente, mais j'aurais dû sécher pour éviter l'amiante. J'ai des potes de toutes sortes, paix à 100 banques. On se voit après les cours et je progresse au ping-pong. Dans les soirées rap, j'attaque freestyle au mic. Mountain bike, l'obstacle avec une paire de Nike. J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès. Au café PMU, c'était plus Spirit Best. Je parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague. Les gens s'affichent comme des tags, on drague, même avec un bon portable.
Les temps changent.
Mais vas-y,
je te dis que j'irai pas. Prends pas la tête. Qu'est-ce que tu fais?
Les temps changent. C'est un peu comme Pérec que je me souviens de l'Académie des Neufs et des Temples égyptiens.
Je suis
pas vulgaire depuis l'amour de sa date. Si tu comptes en année, tu comprendras que ça date. Les pickpockets chez les kangourous, des potes, des bonnes steaks pour le barbecue. Mais le monde est complexe, j'ai le typex. Comme tout le monde, je reste perplexe. Je me rappelle encore de mon petit quartier nord. Nous faisons des tas d'efforts pour nos corps par le sport. C'est fini, y'a plus d'athlètes sur les pistes. On assiste à des compètes de 8-6, les temps changent.
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 sais, when I was younger, quand j'étais plus jeune, with my newspaper, avec le journal Mrs. Power, avec Madame Power.